Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figure de l'Histoire. Les relations avec Bonaparte ne sont pas bonnes du tout. Le 24 novembre 1802, Bernadotte est mis en disponibilité et il est même supprimé de la liste des membres du Conseil d'État. On ne peut pas quand même l'éliminer complètement, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va essayer de l'éloigner. Pourquoi pas, par exemple, nommer gouverneur de la Louisiane? Bernadotte se renseigne, il demande conseil à Lafayette, puisque Lafayette est allé aux États-Unis. Il veut bien partir, mais alors il dit qu'il lui faut 3000 laboureurs, autant de soldats, et que la France, pendant 2 ans, elle doit assurer la subsistance de ses 6000 hommes. Refus de Bonaparte. Alors, on va l'envoyer aux États-Unis. On va l'envoyer aux États-Unis comme ministre plénipotentiaire. Donc Bernadotte arrive à La Rochelle pour s'embarquer le 28 avril 1803. Mince alors. C'est à ce moment-là que l'Angleterre vient de déclarer la guerre à la France. Alors il n'est pas question de partir. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est à ce moment-là aussi que Bonaparte cède la Louisiane aux États-Unis. Donc la mission tombe à l'eau. Alors Bernadotte rentre à Paris, il récupère son traitement général, mais il n'a toujours pas de commandement. Alors je vous rappelle qu'à ce moment-là, le gouvernement, c'est ce qu'on appelle le consulat, que 3 consuls dirigent la France, enfin quand je dis dirigent, ils ont le pouvoir exécutif, et que Bonaparte est le premier consul, c'est-à-dire le plus important. Et alors, c'est à ce moment-là que les corps constitués, c'est-à-dire l'Assemblée et le Sénat, disent que ce serait bien que Bonaparte, finalement, ait un pouvoir plus étendu, un pouvoir absolu, et pourquoi pas héréditaire. La légalité est du côté, donc, du premier consul, puisque les camps constitués veulent en faire quelqu'un d'au-dessus. Alors, je vous ai déjà dit que Bernadotte est tout à fait légaliste. Donc, il ne va pas s'opposer à Bonaparte. Mais il dit qu'il n'a pas promis de l'aimer, Bonaparte, mais qu'il va lui donner un concours loyal et qu'il tiendra parole. Le 14 mai 1804, il reçoit le commandement en chef de l'armée de Hanovre. Et le 18 mai 1804, les chambres déclarent que finalement Bonaparte va être empereur. On appelle ça un senatus consulte. Alors, pour marquer sa reconnaissance d'empereur d'homme des maréchaux, il va en nommer 18. Alors, évidemment, je ne vais pas tous vous les nommer. Je vais vous nommer ceux dont vous connaissez mieux les noms, peut-être. Berthier, Murat, Moncey, Jourdan, Masséna, Augereau et Bernadotte. Le 12 juillet 1804, ce dernier est nommé grand officier de la Légion d'honneur. Et il assiste même à la cérémonie du sacre de Napoléon le 2 décembre 1804. Et si vous regardez le tableau de David, vous pouvez voir qu'il y figure à droite de l'autel, à côté de Caulaincourt, de Berthier, d'Eugène de Beauharnais, de Talleyrand, de Cambacérès et de Lebrun. Et pour couronner le tout, alors ça c'est même très surprenant, voilà que Napoléon lui donne un hôtel particulier rue d'Anjou. Donc, comme il est nommé à la tête de l'armée de Hanovre, Bernadotte s'installe évidemment au Hanovre. Et il l'administre bien, et même si bien, que son nom est connu en Allemagne du Nord et jusqu'en Scandinavie. Retenez bien ça. Il participe aux opérations de la Grande Armée, mais il ne participe en fait qu'à une seule grande bataille, mais laquelle ? Austerlitz, bien sûr, le 2 décembre 1805, anniversaire du sacre de Napoléon. Le 5 juin 1806, il est fait prince de Pontecorvo. En 1807, pour célébrer la paix avec la Russie et la Prusse, Napoléon donne de grandes fêtes à Tilsit. Il donne à Bernadotte une mission de confiance, laquelle ? Le gouvernement des villes hanséatiques, c'est-à-dire des villes du nord de l'Allemagne. Brême, Hambourg, Lübeck. Eh bien, il se montre extrêmement humain, il allège les charges militaires, il lutte contre les abus des troupes. Sa mission, c'est le contrôle du blocus. Alors, ce que c'est que le blocus, je vous le rappelle, hein, Napoléon a décrété qu'il fallait empêcher tout commerce avec l'Angleterre. On dit l'Angleterre à l'époque, bien que ce soit quand même la Grande-Bretagne. Hein. Donc, il faut que tous les pays alliés à Napoléon acceptent de ne pas recevoir les bateaux anglais et de ne pas, évidemment, en envoyer en Angleterre. La guerre reprend contre l'Autriche. Elle se termine par la victoire de Wagram. La situation de l'Empire, quand même, reste délicate. En Espagne en particulier, où il y a une guérilla permanente, en Belgique, en Allemagne, au Tyrol, parce que même l'opinion publique en France commence à renacler. Ils en ont assez des guerres perpétuelles. L'Angleterre, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tire les ficelles en coulisses. Elle profite de la moindre faiblesse impériale. Le 28 juillet 1809, plus de 600 navires anglais, avec 40 000 hommes à bord, mettent le cap sur les bouches de l'Escaut. C'est en Belgique, d'accord, mais la Belgique, pour l'instant, appartient à la France. Et ils débarquent. Alors la nouvelle arrive à Paris le 31, grâce au télégraphe de M. Schaap. Napoléon n'est pas là. Il est en Autriche. Le ministre de la police est Fouché. Il est en même temps ministre de l'Intérieur. Donc il prend l'initiative d'envoyer une circulaire à tous les préfets pour leur dire de prélever des gardes nationaux pour s'opposer à ce débarquement des Anglais. Ça n'est pas suffisant. Alors le conseil se tourne vers les maréchaux qui sont dans la capitale pour leur dire « Allez, il faut aller bouter les Anglais hors de l'Escaut ». Louis demande aussi qu'on lui envoie un maréchal de France, parce que ses soldats... Louis, il est en Hollande pour l'instant. C'est un frère de Napoléon. Hein. Et pourquoi ? Eh bien, il veut de l'aide parce que les soldats hollandais se rallient aux Anglais. Alors Napoléon, qui est toujours en Autriche, comme je vous l'ai dit, envoie une lettre incendiaire au maréchal Clark en lui disant d'envoyer le prince de Pontecorvo avec les 24e et 25e divisions militaires. Donc il part. Il part avec pour mission de protéger Anvers, Flessingue, et de chasser les Anglais des îles de Beveland et de Walcheren. Eh bien, c'est fait. Napoléon alors réunit des corps d'armée de Flandre et d'Anvers sous le nom de Armée du Nord, et il met à leur tête, eh bien, pas Bernadotte, figurez-vous, mais Bessières. À nouveau, Napoléon se sépare de Bernadotte. Dans les différentes lettres que l'on possède de lui, on peut dire vraiment de Bonaparte qu'il est de parfaite mauvaise foi. Il dit que Bernadotte a fait des manquements. Et il paraît, d'après les historiens de l'époque, que ce n'est pas vrai. Hein. Napoléon les invente. Nous allons faire une première pause musicale. Thank you. Nous sommes sur Radio Grand Ciel, je vous raconte la vie de Bernadotte et ses démêlés avec Napoléon. Donc, Bernadotte revient à Paris et il se retire à la Grange, c'est une maison de campagne, dans une situation de demi-disgrâce, comme d'ailleurs d'autres chefs de l'armée, hein, par exemple Brune, Gouvion Saint-Cyr ou MacDonald ou Masséna. Et nous en arrivons à ce que je vous ai raconté lors de ma première émission. Bernadotte a donc été élu pour succéder au roi de Suède, Charles XIII. Alors, il n'est pas mort, hein, ce roi, mais il n'a pas d'héritier. Alors, il se constitue une bibliothèque d'ouvrages sur les pays scandinaves. Il se compose une suite de 39 personnes. Et dans ces personnes-là, il y a même 6 aides de camp. Seulement, il est à court d'argent pour entretenir toute cette cour-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il abandonne ses biens contre une compensation financière de 4 millions. Alors, Napoléon est d'accord. Il lui verse 1 million. Et bien, je peux vous dire que le pauvre Bernadotte ne verra pas les autres. Napoléon a oublié. Reste le point de sa femme Désirée. Eh bien, Désirée, elle traîne les pieds. C'est une fille du Sud, hein. Elle vient de Marseille, elle ne se voit pas du tout dans un pays nordique. Alors elle vient quand même en Suède, bon, et ça ne lui plaît pas du tout. Donc elle n'y reste pas. Cette situation est considérée comme un handicap. Mais il continue à s'écrire, hein, le mari et la femme, et on se rend compte dans les lettres que finalement, il existe entre eux une tendresse mutuelle, et puis que sa femme le soutient. Son entourage dit, bah, puisque la reine n'est pas là, enfin la future reine n'est pas là, ce serait mieux de se séparer. Il ne le fera pas, jamais. Donc le 2 octobre, Bernadotte, quitte Paris, traverse l'Allemagne, où il est très bien reçu, puis le Danemark. Le 19 octobre 1810, il arrive à Elsener, ça vous dit quelque chose, hein, avec Hamlet. D'où il s'embarque pour la Suède. Il est reçu par une députation et l'archevêque du royaume. Il doit, à son arrivée sur le sol suédois, se convertir à la religion luthérienne. Bon, ça ne lui pose pas de problème du tout, hein. L'accueil de la population est enthousiaste. Il rencontre le roi au château de Drottningholm. Je ne sais pas s'il le prononce bien. Son éloquence, il aime beaucoup parler, hein, et il parle bien. Son éloquence, sa gentillesse font de l'effet. Succèdent alors des cérémonies d'intronisation. Intronisation, attention, comme prince héréditaire. Hein, pour l'instant, le roi est toujours vivant. Alors tout se passe bien, tout le monde est content. Bernadotte a montré beaucoup d'intelligence, mais aussi beaucoup d'humilité. Il se rend très vite indispensable. Et désormais, il change de nom. Il va s'appeler Charles-Jean. Alors, je l'appellerai indifféremment Bernadotte ou Charles-Jean. Hein. Les problèmes arrivent avec Napoléon. Ce dernier exige que la Suède participe au blocus contre l'Angleterre. Il le fait même brutalement. Alors, Charles-Jean, il est dans une situation quand même inconfortable, parce qu'il a affirmé lors de son intronisation que la Suède était indépendante politiquement et économiquement. Par conséquent, il n'y a aucune raison d'aller aider Napoléon. Il a même dit « Je ne veux être ni le préfet, ni le douanier en chef de Napoléon. » Pas content, Napoléon, hein. Cependant, je rappelle, il n'est pas encore roi et c'est le conseil qui décide. Et ce conseil déclare la guerre à l'Angleterre le 15 novembre 1810. Le 17 mars 1811, le roi de santé fragile a une congestion pulmonaire. On pense qu'il va mourir. Ben non. Charles-Jean est investi alors de la régence. Il entame alors un triple jeu diplomatique. Il espère annexer la Norvège avec l'aide de la France, rester en bon terme avec Napoléon et entretenir de bonnes relations avec ses voisins, en particulier avec les Russes et les Danois. Charles-Jean se sent de plus en plus suédois. Il propose la création d'une académie d'agriculture, s'intéresse aux travaux de construction du canal de Gotha, renforce l'armée mais aussi il crée une police secrète et un vaste réseau d'espions. Il a été à bonne école, hein, avec Fouché et Savary en France. En septembre 1811, Bernadotte, ou Charles-Jean, comme vous voulez, s'entretient avec le ministre autrichien Neperg. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est lui que Marie-Louise, quand Napoléon sera parti, n'est-ce pas, c'est lui qu'elle va épouser. Il lui confie qu'il veut rester neutre et servir de médiateur entre la Russie et la France. L'année 1812, c'est une période extrêmement importante. On y voit un retournement des alliances. Charles-Jean veut toujours qu'on lui donne la Norvège, refus bien sûr de Napoléon. Bernadotte alors rejoint le camp anglo-russe. Le 27 janvier 1812, les troupes françaises du maréchal Davout pénètrent en Poméranie suédoise sans déclaration de guerre. Les fonctionnaires suédois sont jetés en prison. Alors c'est bien sûr une infraction manifeste du droit international. Napoléon espère ainsi faire peur à Bernadotte et à l'amener dans son camp. Alors là, c'est complètement raté. C'est une erreur tout à fait psychologique. L'empereur expose à Bernadotte son plan de campagne et un projet d'alliance. Il lui dit non pas la, il lui dit qu'il lui promet la non pas la Norvège, mais la restitution de la Finlande si il entre en guerre avec lui contre la Russie. Eh bien, c'est non. Nous allons faire une deuxième pause musicale. Nous sommes sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie de Bernadotte. Et il vient de dire non à Napoléon parce que celui-ci voulait qu'il devienne son allié contre la Russie. Et il promet à Bernadotte, qui s'appelle maintenant Charles-Jean, de lui donner la Finlande. Et Bernadotte a dit non. Et d'ailleurs, ce nom-là, il l'écrit directement à l'empereur. Le 5 avril 1812, la Suède signe un traité d'alliance avec la Russie. Celle-ci lui garantit la Norvège avec l'aide d'un contingent russe de 15 000 à 20 000 hommes. Elle s'engage à considérer la Finlande comme une province russe. De plus, la Suède signe un traité avec l'Angleterre. Les ports suédois sont ouverts aux bâtiments anglais, à la grande rage, bien sûr, de Napoléon. Donc c'est raté pour son blocus. Depuis le 24 juin, la Grande Armée est entrée en Russie. Vous connaissez la suite. Le 1er octobre, Napoléon est à Moscou et à partir du mois de novembre 1812, il devient de plus en plus évident que la Grande Armée va être complètement anéantie. C'est le passage de la Bérézina. C'est vraiment la fin. Le 3 mars 1813, un traité d'alliance est signé entre l'Angleterre et la Suède. Puis Charles-Jean se rapproche de la Prusse. Cette dernière entre dans l'alliance le 22 avril 1813, après avoir déclaré la guerre à la France. Du 9 au 12 juillet 1813, les alliés se réunissent. Alors, je ne vous donne pas tous les détails des guerres, c'était que ça pendant le règne de Napoléon. Donc, sont alliés les Russes, les Autrichiens, les Suédois, les Anglais. Tout ça contre Napoléon. Le prince royal, c'est-à-dire Bernadotte, propose un vaste programme de reconstruction européenne. Alors, la France retrouve, dans ce qu'il dit, la France va donc retrouver ses frontières de 1792. On accepte que Louis, le frère de Napoléon, reste en Hollande, que Eugène de Beauharnais reste en Italie du Nord et que Murat reste à Naples. Alors, on écoute poliment ce que dit Bernadotte. Les coalisés décident alors de poursuivre la guerre contre Napoléon. Bernadotte est à la tête de l'armée du Nord et se déroule bien sûr la bataille des Nations près de Leipzig du 16 au 19 octobre 1813. Et les troupes suédoises y participent activement à cette bataille des trois nations. Napoléon est battu. Charles-Jean fait une campagne brillante. La situation en France s'accélère. Le 30 mars, Paris capitule. Le 2 avril, le Sénat proclame la déchéance de Napoléon. Le 6 avril, Louis XVIII est rétabli sur le trône et Napoléon signe son abdication à Fontainebleau. Bernadotte vient alors à Paris pour rencontrer le tsar avec une escorte tout à fait réduite. Il arrive à son hôtel de la rue d'Anjou, où vit toujours sa femme, Désirée. Mais comme il est venu avec une escorte, l'hôtel est trop petit. Il s'installe tout bonnement alors chez Joseph, le frère de Napoléon, avec qui il était toujours très ami, rue Saint-Honoré. Alors il reçoit des visites de gens que vous connaissez. Il reçoit Tallien, l'acteur, Chiappe, Lecourbe, Lafayette. Et il rend visite à Joséphine, à la Malmaison. Il est bien accueilli par Louis XVIII et le comte d'Artois, son frère. Il se rend même avec eux à l'opéra. Le 30 avril, il quitte Paris, il passe la nuit à Mortefontaine, il rencontre Louis XVIII à Compiègne. Alors revenons à la Suède et à la Norvège. Et puis un troisième pays, le Danemark. Pourquoi donc? Eh bien parce que la Norvège et le Danemark, ce sont des pays qui sont unis depuis la fin du XIVe siècle. Alors je vous rappelle que Bernadotte voudrait bien annexer la Norvège. La Norvège a souffert du blocus parce qu'elle exporte les 3/5 de sa production de bois, de fer et de poisson vers la Grande-Bretagne. Et puis il faut ajouter aussi qu'il y a eu de grandes périodes de famine. En 1813, le roi de Danemark envoie son fils, Christian Frédéric, en Norvège avec le titre de gouverneur et la mission de sauver l'Union Norvège-Danemark. Mais en 1814, au traité de Kiel ou Kiel, comme vous voulez, c'est à côté de Strasbourg, la Norvège est unie à la couronne suédoise. Ah, le Danemark n'est pas content, hein. Et ce traité est une véritable abomination pour les Norvégiens. Pour eux, c'est une défaite dont ils ne se sentent pas responsables. Le 21 février, le prince Christian Frédéric s'attribue le titre de régent et il annonce qu'il refuse le traité de Kiel et la réunion, bien sûr, de l'Assemblée norvégienne pour le mois de mai. Alors l'Assemblée norvégienne se réunit, vote une constitution, se déclare libre et indépendante et confie le pouvoir exécutif à Christian Frédéric de Danemark. Tout ça s'est publié avant que la Suède ait pu réagir. Ah oui, mais il y a eu un traité. Alors, les Norvégiens, eux, sont persuadés que l'Autriche, la Prusse et l'Angleterre vont les soutenir. Alors là, ils se font des idées, parce que Charles-Jean prend les armes, disant que la Suède ne fait pas la guerre à la nation norvégienne, mais à ceux qui s'opposent à l'exécution des traités. Donc, la guerre arrive, c'est une guerre qui ne sera pas longue et qui sera peu meurtrière. Et le Danois Christian Frédéric, à ce moment-là, renonce à la Norvège. Dans les négociations, l'accord se fait pour la réunification des deux pays. Charles-Jean, d'ailleurs, ne cessera de pratiquer une politique de conciliation avec la Norvège. Ce que l'on peut quand même dire, c'est qu'à court terme, cette union ne compense pas la perte de la Finlande. Elle n'accroît ni la puissance ni les ressources de la Suède. Je vous dirai plus tard pourquoi. Du 1er octobre 1814 au 9 juin 1815, se tient à Vienne le fameux congrès où Talleyrand aura une importance considérable. Les représentants diplomatiques des grandes puissances européennes y sont présents. Dans un souci d'équilibre des forces, le Congrès pratique des modifications territoriales, mais alors là, sans tenir compte du tout des peuples qui occupent les pays. Nous allons faire une autre pause musicale. Alors dans ces négociations, en fait, la Suède, c'est une puissance secondaire. Mais Talleyrand a permis quand même qu'elle soit présente aux négociations. Charles-Jean n'espère qu'une chose, qu'on ne discute d'aucun point concernant la Suède. Il se fait discret. Le 1er mars 1815, Napoléon débarque à Golfe-Juan. Ce sont les 100 jours. Même si Bernadotte a des sympathies pour la France, il fait savoir à la coalition qu'il est prêt à s'engager avec eux, mais évidemment, il lui faut des subsides. Bon, on connaît la suite. Victoire de Wellington à Waterloo, 18 juin. Fin des hostilités. Retour en Suède. Le pays est confronté alors à une grave crise économique depuis 1812 à cause de l'inflation, de l'endettement et aussi de mauvaises récoltes. Alors on attend beaucoup du prince royal. Je dis toujours le prince royal parce que le roi n'est pas mort, hein. Il lutte alors contre la spéculation sur le change. Il développe une véritable politique de contrôle des changes et un strict équilibre budgétaire. Charles Jean s'intéresse aussi au royaume de Norvège. Le 5 février 1818, le roi Charles XIII meurt. Alors aussitôt, Charles Jean se rend à l'oratoire du château royal de Stockholm. Il y signe l'acte de garantie. Il reçoit les fonctionnaires civils et militaires, les membres de la cour qui lui prêtent tous ferment de fidélité. Et le 6, il est proclamé roi sous le nom de Charles XIV. Le changement de règne s'opère sans aucune difficulté. Alors, eh oui, que disent les cours européennes ? On pourrait peut-être le considérer comme un parvenu. Le tsar envoie ses félicitations. Et les autres cours suivent, même la France finit par faire bonne figure. Finalement, tout le monde le considère comme le véritable roi. La date du sacre est fixée au 11 mai. Aux yeux de Charles XIV, le sacre signifie plus qu'une onction divine. Pour lui, c'est la consécration d'un lien entre un homme et une nation. Il souhaite être perçu comme un monarque républicain. La cérémonie se déroule sous un ciel radieux, devant une foule immense. Le même cérémonial s'opère en Norvège. Il est le premier roi suédois d'une Norvège indépendante depuis 304 ans. Oscar, le fils de Charles Jean, a beaucoup d'importance. Pourquoi ? Je vais vous le dire. C'est qu'il est extrêmement doué pour les langues, que très vite il a appris le suédois, car figurez-vous que Bernadotte ne saura jamais le parler. Mais on parlait français à la cour de Suède, hein ? Enfin, pas tout le monde, mais la majorité des gens. Alors, Oscar, c'est quelqu'un de très important pour lui. Il veille scrupuleusement à son éducation. Et évidemment, il est tout content qu'il parle couramment le suédois. Comme pour tous les princes, ben, il faut le marier. Alors, Charles Jean tient à ce que Oscar donne son accord, non pas pour un mariage d'amour, faut quand même pas rêver, hein, mais au moins un mariage d'agrément. Alors, on part donc pour, on peut dire, une tournée matrimoniale pour visiter les États où il y a des jeunes filles à marier. On arrive en Bavière, et là, qui y vit en Bavière ? Eugène de Beauharnais, le fils de Joséphine. Sous la protection de son beau-père, parce qu'il a épousé la fille du roi de Bavière, Max Joseph. Et ce Eugène de Beauharnais, il a une fille. C'est donc la petite-fille de Joséphine. Eh bien, Oscar est séduit. Le mariage est célébré au printemps 1823, à Munich d'abord, puis à Stockholm. Et Eugène de Beauharnais a exigé que sa fille reste catholique. Ça ne pose aucun problème. Désirée, à ce moment-là, la femme de Charles XIV, je vais l'appeler Charles XIV maintenant, Bernadotte, hein, qui était partie parce qu'elle ne se plaisait pas du tout. Bon, elle revient au moins pour le mariage, et puis elle reste là quand même. Elle voyagera beaucoup, mais elle reste. 1826, naissance de Charles, premier petit-fils. Il y aura 4 autres enfants, dont 3 garçons. Les relations avec la France ne sont pas excellentes. Les Bourbons ont du mal à accepter Charles Jean. Les choses s'arrangent lorsque le fils aîné du maréchal Lannes, le duc de Montebello, est nommé ministre plénipotentiaire à Stockholm. En 1836, le nom de Bernadotte est même gravé sur l'Arc de Triomphe. Alors comment est-ce qu'il gouverne, Charles XIV ? Eh bien, on peut dire qu'il a été servi par une grande faculté d'adaptation et un réalisme certain. Il sait se servir de son expérience de chef de guerre, de proconsul lorsqu'il gérait le Hanovre et les villes hanséatiques, de diplomate. Il fait montre d'une grande puissance de travail. Il gouverne directement sans avoir recours au Premier ministre, parce que la constitution suédoise est ainsi faite. Il n'y a pas de Premier ministre, c'est le roi qui gouverne directement, avec bien sûr l'avis du Conseil. Il est obligé de se constituer une petite administration fidèle parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il ne réussira jamais à parler suédois. Sous son règne, la situation économique s'améliore. La population augmente, artisanat et manufacture se développent, les ports suédois aussi, les routes terrestres sont bien entretenues en Suède et en Norvège. Il aide les maîtres de forge parce qu'il pense que le travail du fer est absolument primordial. Il crée même une école des mines. Nous allons faire une dernière pause musicale. Nous sommes sur Radio Grand Ciel, je vous raconte la vie de Bernadotte qui est devenu roi de Suède et de Norvège sous le nom de Charles XIV et je suis en train de vous parler du travail qu'il accomplit pour ces deux pays. On peut résumer en disant que les grands chantiers entrepris par Charles XIV ont accéléré le processus industriel, le transfert des technologies et les connaissances ainsi que l'autosuffisance agricole. Ajoutez à tout ça l'instruction, c'est un autre point fort de sa politique gouvernementale. Alors, quelques mots sur le caractère et la vie de Charles XIV. Ce qui frappe ses contemporains, c'est assez amusant, c'est son aptitude à rester au lit. Son lit est une sorte de cabinet de travail. Il reçoit même dans sa chambre. Ah, quand même, à 12h30, il se lève. Il se consacre à sa toilette, à déjeuner. Alors, il déjeune d'un bouillon et d'un verre de vin, je précise, du vin de Bordeaux. Conseil d'État à 14h30, dîner officiel à 17h, mais le plus souvent, il dîne dans sa chambre ou quelquefois avec des intimes, couché à minuit. Il a peu de goût pour les loisirs et les distractions. Il monte à cheval parce qu'il faut bien. Son goût le porte uniquement au travail. Il est complètement indifférent au faste. D'ailleurs, sa liste civile, c'est-à-dire l'argent qu'on lui attribue, sa liste civile est modeste. Il est bienveillant, éloquent. Vous allez me dire, mais alors il n'a pas de défaut. Et si, il est très coléreux, mais aussi extrêmement généreux. Le 26 janvier 1843, on donne une fête brillante pour les 80 ans du roi. Son état se détériore à l'automne. Le 1er janvier 1844, il assiste avec toute la famille royale au bal traditionnel de la bourgeoisie. Mais le 26 janvier, son valet de chambre le trouve évanoui dans son lit. Le 1er février, la régence est confiée à son fils, Oscar. il s'éteint. Le 8 mars, on lui fait des funérailles grandioses. Au revoir à tous.